J'espère que vous êtes contents d'être là. Nous allons passer une petite heure que nous avons voulu en deux parties. Une partie qui est effectivement dans la parole de Dieu, et puis une deuxième partie qui sera justement de parler avec Dieu, de ce que nous avons partagé, et de pouvoir justement écouter ce qu'il a à nous dire. La deuxième partie, c'est Christian qui s'en occupera et qui nous conduira. Une partie qu'on a voulu prière, mais ça peut être une partie aussi si quelqu'un avait quelque chose à dire par rapport à ce qui a été dit ou quoi que ce soit. Mais c'est un moment de prière. Alors, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ce thème de ce week-end. Au départ, je crois que c'est Pascal, me semble bien, qui avait dit « Quelle église voulons-nous » dans un conseil. Si je me rappelle, c'était une phrase qui était sortie. Et puis donc on a discuté, il y a des choses qui sont venues. Et l'idée que le Seigneur m'a donnée était que cette phrase, que je vais essayer de vous expliquer pendant le week-end, « Il ne faut pas faire pour pouvoir faire ». Donc ça va être coupé en deux parties. Aujourd'hui, nous allons avoir la partie de ce qu'il ne faut pas faire. Et demain, dans le message, demain matin, c'est pour pouvoir faire. La fin, finalement, de notre réflexion des anciens, c'était que le thème, le titre de ce week-end est « Unis ensemble », qu'on me rappelle, Jean-Pierre ? Unis ensemble pour servir ensemble. D'accord. Voilà. Donc, ce que je retiens de ce titre, pour moi, c'est le mot « ensemble ». Et c'est ce mot que il me semble important pendant ce week-end que nous puissions, à la fin du week-end, nous mettre d'accord ensemble sur quelle église voulons-nous. Ça serait une bonne chose si on arrivait à pouvoir comprendre cela. L'autre chose, enfin, avant de commencer, c'est que je suis interpellé depuis quelque temps par le fait de qu'est-ce qu'une église spirituelle ? Est-ce qu'une église doit être spirituelle ? Est-ce qu'elle est que spirituelle ? Et est-ce qu'on peut voir une église autrement que spirituelle ? Alors, je vais essayer, en compartimentant, en deux fois, de vous parler comment moi, personnellement, alors pardonnez-moi, hein, je suis un petit peu limité, mais je vais essayer, avec mon cœur, avec la parole de Dieu aussi, de la façon dont je la comprends, de nous emmener sur un chemin qui est un chemin de spiritualité, et non pas un chemin humain. Hein, on va essayer de rester là-dessus. Donc avant de commencer notre étude, j'aimerais vous parler de Dieu, bien sûr. Si on parle de spiritualité, il nous faut parler de Dieu. Cet été, j'ai eu l'occasion de voir et de comprendre ce qui est essentiel et la réalité de la vie spirituelle. C'est ce que j'ai toujours à refaire, à redécouvrir. Rien n'est définitif. Il ne faut pas chercher dans ces moments-là ce qu'il faut faire. C'est le contraire. Il faut regarder à ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez, quand je travaillais, quand j'avais un projet, n'importe quoi, quand je savais déjà ce qu'il ne fallait pas faire, c'était un très bon point. Et pour éviter les bêtises, pour éviter le mauvais chemin, les embûches, quand on sait ce qu'il ne faut pas faire, donc c'est un petit peu ce qu'on va regarder. Je vous rappelle quand même qu'en juillet, ma santé n'était pas au plus haut, et en soins intensifs, j'ai eu l'impression que je partais. J'ai vraiment eu cette impression à un moment donné, les bactéries attaquaient mes reins, les chirurgiens, les médecins, ils venaient régulièrement, on va vous mettre en dialyse pendant une semaine, ah ouais. On va vous mettre sur dialyse pendant un mois, ah ouais, on ne sait pas bien où vous allez, ah, ah. Et là, au fond de moi, même il y avait mes enfants, j'ai dit, je crois que je m'en vais. Alors je n'ai pas peur parce que je sais où je vais. Je le dis, hein, je le répète, mais en attendant, c'était vraiment cette impression-là. Alors je me suis tourné vers Dieu, et Dieu m'a demandé de tout laisser à ses pieds. Et quand je dis tout laisser, c'est total. Et pour cela, laissez-moi vous ouvrir le livre de la lumière et de l'esprit. Jésus commence le sermon sur la montagne par « Heureux ». Les béatitudes, on les connaît bien. Justement, quand nous sommes dans un moment de désespoir, peut-être pas désespoir, mais d'impossibilité, de pouvoir faire quelque chose. On est bloqué. Hein, on est dans une limite. Et bien là, on peut se rappeler, dans, justement, c'est ce que Dieu m'a rappelé, de ce passage heureux. La vérité rend heureux. Tout laisser, et c'est ce que nous allons essayer de faire ce week-end. Et la vérité n'est pas de dire « je laisse tout », mais de faire que tout soit abandonné. Le pouvoir faire est à ce prix. C'est-à-dire que il ne faut pas faire pour pouvoir faire. Vous voyez, il faut tout laisser pour comprendre ce que l'on peut faire. Et bien souvent, nous faisons le contraire. Permettez-moi de vous supplier d'écouter la suite. Alors qu'est-ce que c'est de dire « Dieu m'a parlé » ? J'ai entendu des histoires là-dessus. Quand disait Michel, tu dis « Dieu te parle, pourquoi ?» ouais. Le Saint-Esprit me convainc de faire telle chose. Nous allons essayer de le comprendre ce week-end, car Dieu parle, comme il a parlé à Abraham, et à d'autres aujourd'hui, il nous parle par le Saint-Esprit, qui lui-même est Dieu. Venez avec moi dans Matthieu 5, le verset 1, s'il vous plaît, pour commencer. Alors, ce n'est pas encore notre passage de cet après-midi, mais c'est une entrée en matière. En plus de ça, vous savez, je suis un gourmand. Ce passage 5 des Béatitudes est une véritable gourmandise. Pour l'esprit, c'est quelque chose qui est vraiment délicieux, succulent. Je crois qu'on ne peut pas trouver de mots plus important que ça. Alors, verset 3, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Alors, je vais lire, je ne vais pas commenter, parce que ce n'est pas notre passage de cet après-midi. Mais je lis quand même, parce que c'est tellement important. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » J'ai proposé que ce verset aille à notre ami Jean. J'aime bien, je trouve que ça lui va bien, ça. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de leur bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ah, je voulais juste m'arrêter là. Matthieu 5. Je voudrais prier, parce que je trouve que c'était juste une petite entrée. Père éternel, qu'est-ce que je pourrais dire si ce n'est toi qui le donne, si ce n'est toi qui par ton esprit le grave dans notre cœur, que pourrais-je faire? Je pense souvent, je l'ai déjà dit, à bien sûr Esaïe qui dit « Pauvre de moi, je suis un homme aux lèvres impures, naturellement. Je me présente devant toi toujours comme un pécheur, mais je sais que par la grâce je suis un pécheur pardonné. » Seigneur, je te loue ce matin, que cet après-midi plutôt, que c'est une réalité dans ma vie. Bienheureux ceux qui sont pardonnés. Bienheureux ceux pour qui le péché a été enlevé. Bienheureux ceux qui ont reçu cette nouvelle vie qui permet effectivement de pouvoir te parler, t'entendre, t'écouter. Quel privilège! Quel privilège nous avons d'avoir le seul Dieu qui existe et que ce Dieu tout-puissant, éternel, miséricordieux, compatissant, ce Dieu dont on ne se lasserait pas de mettre des attributs sur lui, eh bien, il est disposé à nous entendre et à nous parler. Bénis ces moments, Seigneur, mais je te prie vraiment de tout mon cœur que tous mes frères et sœurs ici présents puissent repartir avec véritablement un encouragement. Et en même temps, avec quelque chose de précis que tu voudrais écrire dans nos cœurs. Ta parole est puissante, vérité, lumière. Nous voulons te demander qu'elle soit lumineuse véritablement dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. À travers mon arrêt de santé cet été, Dieu m'a montré encore une fois mon orgueil de croire que j'étais quelque chose. Alors que j'étais pauvre en esprit, Dieu m'a réappris que mourir à soi-même permet de vivre par l'esprit et que c'est à refaire régulièrement, nous le verrons demain, mais notez que Dieu m'a parlé à plusieurs reprises. Et je vous ai invité à lire ces 7 premières béatitudes. Allons donc dans notre passage de cet après-midi. Je vous invite à venir avec moi dans Paul, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, les 11 premiers versets. Je vous propose encore une fois de démarrer ce week-end en affirmant que l'Église est un corps spirituel et que c'est par l'Esprit que nous vivons. Je vais insister fortement pendant tout ce week-end pour nous rappeler que nous sommes nés de nouveau. C'est donc spirituellement que nous pouvons comprendre les choses. Et quand on dit spirituellement, ça veut dire que c'est par le Saint-Esprit que Dieu a mis dans notre cœur. Et que ce Saint-Esprit, la Bible nous dit, Paul nous le rappelle en disant, « N'attristez pas le Saint-Esprit que j'ai mis en vous. » Ce Saint-Esprit qui, lui, nous révèle la volonté de Dieu. Et on en parlera demain, donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Sinon, autrement, je n'arriverai jamais à faire ce que j'ai dit. C'est par la grâce que nous survivons, et c'est grâce au Saint-Esprit, avec la liberté que nous donne l'Esprit, que nous pourrons recevoir la dimension de l'Église que nous voulons. Voilà l'importance de ce week-end, définir ensemble quelle Église nous voulons. Mais soyons honnêtes dans notre cœur. Soyons honnêtes dans notre cœur. Je crois que nous allons être interpellés plusieurs fois pendant ce week-end. Première interpellation, la voilà. Soyons honnêtes dans notre cœur. Que voulons-nous ? Lorsque nous disons, j'ai bien aimé, encore une fois, je répète ce que Pascal disait, quelle Église voulons-nous ? Mais ça peut être plusieurs interpellations. Quand on dit quelle Église je veux ? Quelle Église je crois qui serait bien ? Et peut-être que nous verrons autre chose durant ce week-end. Alors, chapitre 2 de Philippiens, « Si qu'il y a donc quelque encouragement en Christ. » Vous voyez, c'est au conditionnel. Le conditionnel qui est répété avant par différentes choses, mais s'il y a quelque encouragement, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse, de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par l'esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Mais avec humilité, considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme, une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il y aurait beaucoup à dire sur ce passage. Mes chers frères et sœurs, je vais vous proposer deux actions fondamentales qui s'opposent et permettent de dire aujourd'hui ne pas faire pour pouvoir faire. Surtout, ne dites pas ce qu'il faut faire avant de comprendre ce qu'il faut laisser. Car il s'agit d'un état d'âme, d'un concept spirituel avant tout, d'une réalité spirituelle, déposer la globalité de notre vie. Cette philosophie chrétienne, qui peut paraître contradictoire, complètement hors de sens, est la seule qui soit pourtant capable de nous amener vers une liberté entre l'homme et Dieu. Dieu m'éblouit dans sa majesté, sa souveraineté s'accomplit par cet acte à notre égard de nous laisser libres. Voilà l'amour de Dieu en action. Je répète, sa souveraineté s'accomplit par cet acte à notre égard de nous laisser libres. C'est aussi ce qui nous perd parfois. Voilà l'amour de Dieu en action. Parce que c'est ça la grande révélation de l'Évangile. Dieu nous a laissé la liberté de choisir, cette possibilité de vivre en accord avec lui, de choisir notre vie avec lui, de tout laisser de ce monde pour lui. Pour cela, il faut communiquer avec lui, lui parler et attendre sa réponse. Mes chers amis, autre interpellation, est-ce que Dieu vous parle ? C'est la grande question. Est-ce que Dieu vous parle personnellement ? Dans la Bible, il y a tout ce qui nous est nécessaire pour vivre et pour connaître quel type d'église est bonne pour nous. La preuve, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton cœur et de toute ta force. C'est une vérité biblique. Vous avez noté que tu aimeras un peu le Seigneur avec ta pensée. Tu lui donneras un petit peu de ton cœur. Ah non, c'est pas ça qui est écrit. Vous avez vu, on est loin de la vérité. Et c'est ça l'important. Si nous voulons comprendre et si nous voulons écouter Dieu, je crois que c'est là qu'il faut chercher la vérité. Alors, je me suis perdu. Et est-ce que vous parlez avec Dieu en prenant compte qu'il est Dieu ? Est-ce que vous aimez Dieu ? Parce que vous avez laissé Dieu se révéler à vous, à votre cœur, et que dans son infini, avec sa sainteté, Dieu vous parle. Sa justice est comblée par son esprit, il nous parle. Je vous propose donc deux actions, une aujourd'hui, qui est une étude, et la parole de Dieu avec le chapitre 2 de Philippiens, les versets 1 à 11, comme on a vu. Enfin, vous commencez à me connaître. Quand je dis étude, c'est à ma façon. Je ne suis pas un professeur, loin de là. J'obéis à ce que Dieu me dit, et Dieu me dit, va, dis-leur ce que je t'ai dit, et donc voici. C'est donc plutôt une lecture avec le Saint-Esprit. Je compte sur Dieu pour m'aider, pour nous révéler. Je ne perds pas trop mon temps, pour nous parler. Si vous êtes d'accord, ce week-end, j'ai demandé à Dieu de vous parler. Donc on a lu le texte. Une autre action demain, qui viendra après, dans le culte avec un message sur l'épître de Paul aux Romains. Tout d'abord, l'Église est un corps spirituel. Ne l'oublions jamais. Aussi, la réponse à la question « Quelle Église voulons-nous » sera spirituelle. C'est aussi important de le noter. C'est par l'Esprit que nous pouvons vivre une vie pleine et riche avec Dieu. Tout d'abord, une véritable relation avec Dieu. Il vous parle et vous lui parlez. Avez-vous cette relation spirituelle avec Dieu ? Moi, je dois vous dire que j'ai une passion pour le spirituel. Je ne cherche pas les manifestations extraordinaires. Je cherche Dieu, et par son esprit, il m'ouvre les portes du ciel. Et là, je découvre la vie spirituelle, par la prière, par la méditation de sa parole, et par la communion avec son esprit. Mais je dois dire que je dois souvent revenir au pied de la croix pour confesser ma raideur, mon orgueil. Là, j'ai mal, là, derrière, là. C'est raide, là. C'est pas raide, vous ne sentez pas qu'il y a une petite raideur, là, dans la nuque, là ? Chez moi, c'est raide, là, c'est dur. Je mets un peu de pommade, ça va mieux. Allez. Je cherche quelle église je veux. Je cherche Dieu. Malgré tout, nous sommes des êtres humains. Aussi, je vais vous laisser un signet demain. Le voilà. Qui récapitulera ce qui est aujourd'hui et ce qui est demain. Mais vous l'aurez demain après le culte. Les enfants vont le finir. Pour avoir une réponse concrète, quelle église Dieu veut pour nous. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire que mon étude n'est pas théologique. Je veux suivre la révélation textuelle par le Saint-Esprit. Voilà mon approche. Je vous invite à pratiquer tous les jours cette vision de la parole. Avec le Saint-Esprit, la Bible prend vie. Avec le Saint-Esprit, la Bible prend vie et devient pour nous la parole de Dieu. Avec le Saint-Esprit, la Bible prend vie, ça change. Ce n'est plus un livre où il y a un texte écrit. C'est la parole de Dieu. C'est poussé par les Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. C'est ce que nous dit la Bible. J'insiste sur ce point car bien souvent nous étudions la Bible. Je vous propose de laisser cette conception et d'ouvrir notre cœur, notre tête et notre esprit à l'Esprit de Dieu. Ne cherchons pas à savoir, mais à connaître Dieu. Donnons plein espace à l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Demain, je vous dirai comment faire. Dans ce chapitre 2, nous y venons, de Philippiens à 11, vous demandez quand est-ce que j'allais y arriver, hein. Voilà, j'y arrive. Il se trouve un miroir de ce qu'il ne faut pas faire. Une révélation du Saint-Esprit que j'ai vécu cet été, justement, avant de venir. Aujourd'hui, vous parlez de sa part. J'ai vraiment un message de la part de Dieu. Au verset 2, l'apôtre appelle à rendre sa joie parfaite. En vivant en plein accord, c'est la première invitation que nous pouvons voir que c'est difficile le plein accord. Pourtant, cette église de Philippe est précieuse et appréciée de Paul. Venez le lire avec moi dans le premier chapitre, les versets 1 à 7, pour vous montrer que Paul dit de vivre un plein accord et pourtant cette église, ce n'était pas rien. Chapitre 1, les versets 1 à 7. Donc, de la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ à tous les saints, en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. Vous voyez, quelle église il parle ? C'est pas n'importe qui. Je vous porte dans mon cœur. Ma reconnaissance de tout ce souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie. Extraordinaire. Quand on en est là, de penser des choses comme ça. Et pourtant ici, dans le verset 2, ici, il dit comme ça, « Rendez ma joie parfaite. » Effectivement, puisque sa joie, il l'avait, il l'a dit, mais rendez-la parfaite. C'est un petit peu ce que je voudrais dire aujourd'hui. Pour que notre Église puisse comprendre quelle Église, ou que nous puissions comprendre quelle Église voulons-nous, essayons de regarder parfaitement qui est notre Dieu, quelle place nous avons dans l'Église du Seigneur, et après ça, sans aucun doute, nous verrons que nous avons peut-être des choses à laisser tomber, ou a peut-être à changer notre vision des choses. Mais il dit la première chose qu'il y a dans ce verset 2, et moi ça m'a interpellé par rapport à nous, il dit « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. » Il semble que pour Paul, la chose la plus importante en premier, alors qu'il connaît bien cette Église, qu'il aime profondément cette Église, il leur rappelle, il ne les accuse pas, hein, notez qu'il n'y a pas de procès, hein, il n'y a pas de... Non, mais il les interpelle en disant, souvenez-vous bien que dans une Église spirituelle, j'interviens là-dedans fortement, la chose la plus importante, c'est que vous puissiez vivre en plein accord. Chers frères et sœurs, vivre en plein accord ne veut pas dire que l'on soit tous du même avis. Non. Vivre d'un plein accord, ça veut dire que quand on est ensemble, on est unis pour servir. C'est vous qui l'avez dit, hein, ça c'est pas moi. Mais je crois que c'est ça. C'est le premier point qui nous interpelle ici, dans ce chapitre 2. Vous allez voir qu'il y en a qui sont beaucoup plus forts que ça. Mais voilà. Il verra que c'est difficile. Pourtant, cette église de Philippe, comme je vous ai dit, avait quand même pas mal à apporter de positif. Et pourtant, à la fin du verset 2, ayez un même amour, une même pensée, une unité de pensée. Rendez ma joie parfaite. Ça semble ne pas être suffisant. Paul lance un appel à ses frères et sœurs parce que tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils ont, ne semble pas être suffisant. Alors il faut quoi ? Et dans les versets 3 et 4, il y a là ce qu'il ne faut pas faire dans notre vie pour voir clair. Verset 3, ça commence comme ça. Ne faites rien. Notez qu'il n'y a pas de détail. C'est complètement ne faites rien. Ça veut dire rien humainement. Soyez spirituel totalement. Ne faites rien, et il prend le côté humain, il dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Mais, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Nous rejoignons un plein accord. Nous sommes ici, effectivement, dans la plénitude, je dirais, de être ensemble. C'est-à-dire que s'il y a de la rivalité, s'il y a une recherche de vaine gloire, s'il y a de la pratique de la fausse modestie, je fais, regardez-moi comme je fais. Voilà. Et ça s'appelle la fausse modestie. S'il y en a qui sont coincés dans leur propre croyance, dans leur propre certitude, alors que dans l'Église, tout semble ne pas aller dans ce sens-là, peut-être qu'il y aurait-il besoin, là, de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment raison ? Nous verrons que demain, il est question de savoir perdre. Pour trouver un plein accord, chers frères et sœurs, à certains moments, il y en a qui vont avoir raison, et peut-être que d'autres, ils vont avoir tort. Reconnaître que l'on a tort, c'est déjà un grand pas. Mais quand on a raison, accepter de ne pas revendiquer d'avoir raison pour permettre à ceux qui sont dans la difficulté de pouvoir revenir, c'est savoir perdre pour gagner. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'il nous dit ici. Avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Notez la différence. Il n'y a pas de compétition. Les autres sont systématiquement supérieurs à nous-mêmes. Dans l'Église, mon frère à côté de moi est plus important que moi. C'est ce que je dois me dire. Ma sœur qui est de l'autre côté, parce que j'ai aussi des sœurs en Église, ma sœur qui est de l'autre côté est plus importante que moi. Si je viens avec cet état d'esprit, vous croyez que je peux avoir des problèmes avec eux ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Nous avons là des bases de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ne pas faire, ce serait de vouloir maintenir le cap. Quoi qu'il arrive, j'ai raison, je vais aller là. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Ça ne veut pas dire que nous n'existons pas dans l'Église. Bien sûr que non. Chacun a sa place. Chacun a son rôle. Dieu nous a donné à l'Église, avec les dons, les talents que nous avons, avec les moyens, hein, etc., etc. Eh bien, tout cela est important et que nous permette de regarder aussi à ceux des autres. Ne faites rien. Regardez l'exclusivité de la phrase « ne faites rien ». Avec Dieu, pas de demi-mesure. Elles apportent toujours de grandes blessures. L'apôtre nous dit « ne faites rien, mais avec humilité ». Voilà. Paul donne toujours la vérité spirituelle qui correspond. Et le verset 4 confirme en disant « que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, vous avez vu ce qu'il ne faut pas faire ». C'est la première partie de notre étude, de notre regard, rappelons-le comme on veut. La Bible, parole de Dieu, s'anime avec le Saint-Esprit et nous apporte la révélation spirituelle. Le principe de ces versets est clair. Ne rien faire et mettre les autres en valeur. Accepter qu'ils soient différents et les aider à progresser. Aimer, c'est s'oublier et ne penser qu'aux autres, dans le service, dans le soutien, par la compassion, la consolation, la patience, tous les dons de grâce, la prière avec beaucoup de tendresse et d'écoute, c'est l'abandon de soi. Nous sommes là dans la description de ce que doit être une Église. Ce n'est pas à nous de définir l'Église que nous voulons. Elle est dans la parole de Dieu. Le principe donc est clair. Vous pouvez voir que si nous appliquons cela à notre Église, il y a la matière à réflexion de vouloir changer. Et je dirais, nous sommes tous coupables. et nous sommes obligés de constater que pour nous ce n'est rien, ou c'est si peu de choses. C'est pas bien grave, on va pas encore revenir sur ces choses, là. On en a déjà parlé, ça suffit, c'est pas grave, laissons. Oui, pourtant, ça anime constamment notre pensée. Ah, on ne va pas en reparler de tout ça. Et puis, le reste, ça va se faire, tout ça. Non, pas du tout, c'est pas le principe. Nous sommes tous coupables, et c'est cela le problème. Quand ça ne marche pas, pour Dieu, c'est essentiel, car il s'agit de péché, et Dieu est saint. Alors, comment changer? Vous pouvez changer? Moi non. Je suis trop égoïste. Quand le Seigneur m'a posé ces questions, vous savez, j'étais tout seul, hein, je ne pouvais pas lire ma Bible. J'étais allongé, j'étais KO debout. Donc là, quand Dieu dit, Michel, j'ai à te parler, je dis, non, où tu vas aller où là? De toute façon, tu ne peux pas bouger. Hein. Ouais, t'es cuit, et il n'y a que nous deux. Regarde autour, tu ne les vois pas, il n'y a que nous deux. Et j'ai bien été obligé d'écouter et de regarder et d'entendre surtout. Je vais essayer avec l'aide du Saint-Esprit de vous montrer qu'il ne faut pas rester dans cet état d'esprit ce week-end. Et voilà en première partie ce qu'il ne faut pas faire. Mais ce n'est pas tout. Le texte va plus loin. Alors continuons au verset 4. Nous avons là ce qu'il ne faut pas faire et pourquoi. Dans cette partie de notre texte, Paul nous encourage à vivre dans l'humilité pour la valeur des autres en premier. Mais à partir du verset 5, le ton change. Jusqu'au verset 4, Paul s'adresse aux Philippiens. Et il parle d'eux. Il leur dit, je vous connais, rendez ma joie complète, vivez en plein accord, soyez dans l'humilité. Et puis à partir du verset 5, il change. Et c'est cet élément qui est important, et naturellement, j'ai mangé la page, elle va revenir, voilà, elle est revenue. Verset 5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Oh, flûte. Alors jusqu'à maintenant, j'en ai pris plein la figure, et maintenant on est en train de changer, parce que là, c'est l'impossible. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et il va plus fort. Hein, il vient, il explique, est-ce possible? Moi je dirais personnellement non. De moi-même, je suis incapable d'être identique à Jésus. Je préfère vous parler, ma façon, ce qu'il y a dans mon cœur, parce que c'est à vous de répondre dans votre cœur ce qu'il y a, la réponse. Mais sachez que moi, en ce qui me concerne, j'ai bien été contraint, assis, couché sur mon lit tout seul, je ne pouvais pas m'échapper. Quand Dieu me disait, Michel, est-ce que tu es capable d'être comme Jésus-Christ? Pourtant, tu le dis! Tu me prêches, j'ai prêché ce livre de Philippiens combien de fois? Ah ouais, et puis quand je l'ai pris là, il me dit, regarde, ton attitude soit identique à celle de Jésus. Et tu sais quelle est l'attitude? Attends, je vais t'en parler. On va en parler tout de suite. Et moi, je sais que je suis incapable d'être identique à Jésus. Mais que dois-je faire? Frères et sœurs, qu'en pensez-vous? J'ai un super livre. Alors j'ai une bibliothèque que j'ai construit dans les années, comme chacun d'entre nous, hein, des livres chrétiens. Je vous en ai parlé déjà une fois. J'ai un vieux livre, tout petit, pas gros comme ça, qui dit comme ça, « Que ferait Jésus à ma place ?» Vous connaissez ce livre, hein, qui est extraordinaire, qui m'a fait pleurer. C'est comme je vous l'ai déjà dit, au début, le chrétien qui meurt, c'est un typographe. Je suis un typographe. Donc forcément, ça m'a touché, ça m'a ému. Mais ce livre est rempli de choses extraordinaires. Une église entière, puissante, dans cette ville. Bon, on est en Amérique, hein, faut remettre les choses comme elles sont. Mais une église qui est bien établie, qui marche bien, etc., va être bouleversé, va être complètement, mis à part, mis à bas, couché par terre, par ce témoignage qui est arrivé, où cet homme qui n'avait pas grand-chose est arrivé, et devant tout le monde, il a dit, dites-vous bien, que ferait Jésus à ma place? Nous en sommes là. Ici, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Ça veut dire, d'ailleurs la première personne, c'était un dirigeant d'un journal qui a dit, moi je vais commencer maintenant, chaque fois que je veux faire quelque chose, je vais me poser la question de dire, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et ça a fait changer les choses. Le monde dans cette ville a changé radicalement. Et oui, ça pourrait être pareil chez nous, vous savez, c'est pas une question de grandeur, c'est Jésus qui est tout puissant. C'était pas les hommes, hein, ne l'oublions pas. Que dois-je faire? Frères et sœurs, qu'en pensez-vous? Oui, il nous a dit comme ça, verset 6, « Lui qui est de condition divine, Jésus est Dieu, n'oublions pas, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais, et voilà le premier point, il s'est dépouillé lui-même. » Pour savoir ce qu'il ne faut pas faire, puisqu'on commence notre étude par ce qu'il ne faut pas faire, eh bien, il s'est dépouillé lui-même. Ce ne sont pas les autres qui l'ont dépouillé, hein, notez bien. C'est-à-dire qu'il a mis sa volonté, tout ce qui lui est propre, il l'a mis dans la balance pour se dépouiller lui-même. C'était cet acte qui était important. Et c'était Jésus. Pour savoir ce qu'il ne faut pas faire, voyons, c'est justement de vouloir tout contrôler. Nous, on est dans le contrôle aujourd'hui. Une église qui veut suivre son maître va se dépouiller de tout. Elle abandonne à Dieu tout pouvoir, et cela comme un état d'esprit permanent. Ne cherchons pas ce qu'il faut faire, mais dépouillons-nous de toutes nos habitudes, laissons Dieu faire. Stop. Petite parenthèse. Ne faites pas de programme avant de comprendre comment faire. Ne pas faire permet à ce que Dieu puisse faire. Quand nous avons fait, nous, un programme avec des tas de choses de prévues, de conçues, etc., après on dit à Dieu, regarde notre programme, bénis-le. Et moi, si j'avais dit ça quand j'étais couché dans l'hôpital, je vous assure que je suis sûr que Dieu aurait répondu, mais Michel, si tu as déjà tout prévu, t'as pas besoin de moi, tu m'as appelé. C'est pour t'aider, pour t'accompagner, pour te parler, pour te consoler. Si tu commences pas par là, comment est-ce que tu vas faire? Il dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui, de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il n'a pas regardé à ce qu'il était. C'est ce que nous dit le texte, ce que nous dit la Bible. Il n'a pas regardé son égalité comme un butin à préserver. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché du tout à dire « Non mais attends, je fais partie de la Trinité. » Je dis, nous pensons un peu comme ça. Hein. Mais vous savez, quand on a bien étudié la parole de Dieu, quand on a bien étudié Dieu, on voit que dans la Trinité, il y a quelque chose d'extraordinaire. Dieu n'avait pas besoin de créer le monde ou la terre. Il se suffisait dans la Trinité. C'était la perfection de l'amour, la perfection de tout. La sainteté y régnait, mais attendez, il n'était même pas question de penser à quoi que ce soit que nous vivons sur cette terre. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Les mots sont même pas, ne reflètent pas la vérité. Mais Dieu, justement, ici, a justifié de sa grandeur en créant dans son amour les hommes. C'est ça qui est extraordinaire. Et quand les hommes ont failli, Dieu est allé plus loin. Dieu a prouvé son amour. Alors que nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Voilà la vérité. Ce n'est pas dans notre étude, mais ça y vient. C'est de vouloir tout contrôler. Laissons Dieu faire. C'est perdre sa vie, c'est mourir à soi-même. L'Église est spirituelle, c'est donc par l'Esprit et non par la nature humaine que nous voulons que l'Église vive. C'est s'oublier soi-même au profit des autres, se dépouiller de sa propre nature. Au verset 8, je vais accélérer, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. C'est plus fort que juste donner de son superflu. Jésus l'a fait lui-même, cela veut dire de sa propre volonté. Il a dépassé le normal. Il se donne. Je me souviens d'une histoire qui m'avait été racontée, elle est courte, je peux vous la communiquer. C'était un missionnaire qui passait et il disait, il y avait une chose, vous qui avez des, vous savez, des petites chaussettes hein, pour ramasser les offrandes à la fin du culte, en Afrique, ils n'ont pas beaucoup d'argent, voire ils n'en ont pas. Donc ce qu'il y a, c'est que à côté de l'hôtel, il y a deux grandes corbeilles. Et puis un, il va donner un lapin, l'autre, il va donner une poule, il donne hein, en proportion de ce qu'ils ont. Voilà. Et puis un pauvre vieux qui arrive, il a, lui, il n'a rien. Il a une chemise en haillon sur lui, une culotte en haillon, il n'a rien. Alors il regarde tout le monde, et puis d'un geste désespéré, il saute dans la corbeille. Et il donne tout ce qu'il a. Il se donne lui-même. Belle histoire, hein? Et c'est une histoire vraie. C'est ça que je trouve extraordinaire, nous qui sommes des nantis. Nous sommes arrivés à la fin de notre étude, tout est écrit. Mais est-ce que tout est compris? Ce qu'il ne faut pas faire en tant que chrétien, qu'est-ce que cela veut dire? C'est défendre constamment ses intérêts. C'est bien. Avoir toujours raison. Ne pas vouloir perdre, vouloir gagner. L'Église a des biens, il faut les défendre. En faire une priorité. Non, c'est Dieu qui s'en charge. Non, c'est nous. Ne pas se laisser humilier. Ce n'est pas juste. Et moi, j'existe. La fausse modestie. Je travaille pour Dieu. Seulement, Dieu voudrait que nous lâchions notre volonté. Ah, j'en ai marre, c'est toujours... On continue ? Eh bien, frères et sœurs, pour répondre à la question « Quelle Église voulons-nous ? », il faut répondre à ces questions. Sommes-nous capables de dire oui, sans arrière-pensée ? Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Agir de soi-même ? Il nous faut mourir à soi-même. Il faut accepter de perdre la face, même si j'ai raison. Je vais accepter d'avoir tort. Tiens, une autre petite histoire, je vais vous raconter, rapide. Au début que je suis arrivé à Châlons, je venais de me convertir. 20 ans que j'étais converti à peu près, et un missionnaire, je vous ai raconté, hein, j'ai rencontré, m'a pris sous son aile et m'a formé pendant 6-7 ans. J'ai eu ce privilège. Mais tout au début, j'étais directeur technique d'une petite unité d'imprimerie, et il y avait dans l'église un homme qui était arrivé, qui avait été missionnaire en Centrafrique, à Bangui, et mais qui était français, hein, et il venait, donc la mission avait dit on n'a plus les moyens de le garder, et finalement, donc voilà, il revient en France. Donc c'est-à-dire, il arrive en même temps qu'en l'église, et puis il cherche du boulot. Il se trouve que dans l'entreprise, on avait besoin d'un homme de main, il était costaud, tout ce qu'il fallait. Je propose à mon PDG de vouloir le prendre, pas de problème, allez, on le met au boulot, et puis en avant. Et il n'était pas, en plus, heureusement, il n'était pas sous mes ordres. Il y avait deux parties dans l'entreprise. Il y avait l'imprimerie technique que je dirigeais. Et à côté, il y avait un magasin avec tirage de plomb, etc. Je sais que tu regardes, mais... Hein, j'arrive au bout. Et donc, tout se passait à peu près bien. 6 mois après, c'était un feignant notoire. Voilà. On n'arrivait pas à le faire bosser. Et le patron est venu me voir, il m'a dit, « Monsieur Molière, ne vous inquiétez pas. J'ai rien contre vous, mais je ne vais pas le garder. Parce que je ne peux pas, etc., etc. » Je dis, mais vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes le patron. Si vous jugez, et je dis, en plus, je suis d'accord avec vous, parce que je voyais bien, même s'il n'était pas sous mes ordres, j'avais bien vu que ce n'était pas un courageux. Et donc, ben, il le vire. Et dans l'église, ah, il ne dit pas tout à fait ça. Quand il arrive dans l'église, il dit, oui, j'ai été viré, c'est de la faute à Michel, etc., etc. Alors, le pasteur, il vient me voir, on discute, et puis il me dit, oui, mais Michel, tu comprends, là, c'est toi le responsable, l'Église va éclater si on fait un truc comme ça, ça va créer un boom, etc. Il m'explique, il prend son temps, et à la fin, il fallait que j'aille demander pardon à ce frère, de l'avoir mis dans une situation difficile, dans laquelle, justement, il se retrouve aujourd'hui. Demander pardon ? Mais de quoi ? J'avais fait mon boulot. Il n'était pas sous mes ordres, je lui devais rien, c'est pas moi qui l'avais viré, il avait mal fait son boulot, c'était de sa faute, etc., etc. Dans mon cœur, je vous explique pas, le truc, ça bouillait comme... jamais de la vie, je vais faire ça. Alors, je suis rentré chez moi, oulala, j'ai passé une mauvaise nuit. Puis à la fin de la nuit, il y a quelqu'un qui est venu taper à ma porte. Il m'a dit, ça y est, t'as fini ? T'as dit tout ce que t'avais à dire ? Toute la nuit, je t'ai entendu, t'en as sorti de toutes les couleurs. Et le Seigneur, il m'a dit, humilié, tu sais ce que ça veut dire? J'ai l'impression que t'as pas compris encore, on t'a pas expliqué. Et là, le Seigneur m'a dit, tu sais, c'est à toi de le faire. Tu n'as pas à t'occuper de ce que lui pense. Tu as à t'occuper, tu es impliqué avec lui dans la même histoire. Si tu veux que l'Église soit protégée, il faut que tu acceptes d'avoir tort, même si tu as raison. Et si un jour tu veux être un responsable dans l'Église, apprends à faire ça. Allez, donc, arrête. Difficile à avaler, hein. Bon, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Et l'Église a été protégée. Je ne vous raconte pas l'histoire parce que c'est pas, malheureusement, elle n'est pas heureuse. Mais en attendant, moi, j'ai été protégé. Et je peux vous dire que les grâces n'ont pas cessé de tomber tout le temps que j'ai été à Châlons. Il faut accepter de perdre, même si j'ai raison. Je vais accepter d'avoir tort pour le bien de tous. Heureux seront-ils ceux qui savent perdre, qui se dépouillent eux-mêmes. J'ai perdu la face aujourd'hui. Ouais. Dieu a gagné. Toute l'Église a gagné. Et le frère, souvent, quand c'est comme ça, il a son cœur qui est travaillé et il finit par se dire « J'avais peut-être raison, mais finalement, je ferais bien d'arrêter dans ce sens. » Voilà, chers frères et sœurs, je vous laisse méditer ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas faire consiste à attendre que Dieu nous dise quelles sont ses œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ne faisons pas notre programme de nous-mêmes, mais attendons que Dieu ait parlé. Pour cela, il faut tout lâcher. Je vous propose de vous dépouiller vous-même de tout ce qui nous rattache au monde. Paul dit quelque chose de dur au chapitre 2, les versets 20 et 21. « Je n'ai personne » et au verset 21, « Tous cherchent leurs propres intérêts. » Dans le chapitre 2, il dit ça. Versets 20 et 21, vous pouvez voir, on ne va pas continuer puisque je dois arrêter. « Je veux changer, mais de moi-même, impossible. » Nous allons passer un temps dans la prière. Prenons le temps de dire à Jésus, « Je crois. » J'aime bien ce passage de l'Évangile. « Je crois. » Jésus dit comme ça, « Tout est possible à celui qui croit. » Vous vous rappelez ? Et l'homme, le pauvre homme qu'elle a, hein, dans le désespoir, il dit « Je crois. » Mais viens au secours de mon incrédulité. Et je crois que, au point où nous en sommes, pour pouvoir justement passer le cap, pour pouvoir passer au-dessus, il faut se trouver dans cette situation de dire au Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je veux changer, mais de moi-même impossible. Accorde-moi, s'il te plaît, comme il dit Paul aux Philippiens, le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Demain, nous verrons à ces questions ce qu'il faut faire. Mais d'abord, il faut tout lâcher devant Jésus. Excusez-moi, j'ai pris du temps. Mais aujourd'hui, c'était important que nous puissions comprendre ce qu'il ne faut pas faire. Demain, je vous propose des réjouissances. Je vous promets que vous allez passer du bon temps parce que j'ai préparé pour vous un bon plat. Enfin, c'est pas moi qui l'ai préparé. Le Seigneur m'a donné tous les ustensiles pour pouvoir nous permettre demain, véritablement, je ne vais pas utiliser certains mots parce que ça serait déjà donné le titre du message, mais une véritable réjouissance. Je crois que ce qu'il y a avec le Seigneur, c'est que, après que nous aurons souffert un peu, il viendra lui-même, il nous fortifiera, il nous rendra inébranlables.